Et oui, Céline Dion et sa chanson « Destin ».
Oui, pour parler d'un destin fabuleux, celui d'Élisanne Pellerin. Bonjour, Élisanne.
Bonjour, Anne.
Élisanne, chroniqueuse à la revue de presse de l'émission « Sans détour », animatrice aussi du balado « Pitouet ta journée ». Alors, Élisanne, j'ai eu envie de vous inviter, je ne sais pas, je me semble que naturellement, je serais portée à te tutoyer parce que tu es ma collègue depuis quand même quelques semaines, quelques mois même.
Quelques mois, ça fait, ça fait plus d'un an qu'on se connaît, mais... Ouais.
Est-ce que je peux vous tutoyer?
Oui, allez-y, je vous en prie.
Puis toi aussi.
Oui, on se tutoie.
Alors, c'est la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et puis, tu as accepté mon invitation.
Oui, avec plaisir.
Et je lisais, je pense que c'était en 2013, il y a un texte qui a été publié, signé par Élisanne, intitulé « Être handicapé, ma plus belle qualité ».
Oui, j'avais fait ça à une autre époque, Yann.
Alors, est-ce que tu penses la même chose? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'avais écrit ça?
Je pense que c'est la même chose parce que je pense vraiment qu'il faut voir la situation d'handicap et la différence plus largement comme étant un gain pour la société. Je pense qu'on a des choses à apporter. Je pense qu'on n'a pas nécessairement la même vision que les autres et que ça, c'est une force. Okay? Par contre, c'est sûr qu'en vieillissant, j'ai perdu un peu de naïveté. Okay? J'ai quand même été dans différentes situations où j'ai été discriminée quand même plusieurs fois. Donc, clairement, ça m'a aussi nui en vieillissant, en devenant adulte, quand on est rendu à chercher un emploi, quand on est rendu à être autonome et à être seul pour entrer dans des endroits publics, tout ça, bon, ça peut causer problème d'avoir un handicap, malheureusement. Donc, j'ai perdu un peu de naïveté. Mais ça reste quand même, je pense, une qualité d'être différent. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner plutôt que d'essayer de cacher en société. Puis je pense qu'on devrait être fiers d'être toutes différents, d'ailleurs.
Élisanne, comment vous décrivez votre handicap?
J'ai la paralysie cérébrale, qui est une maladie de naissance, en fait. J'ai manqué d'air à la naissance, étant donné que je m'étais tourné un cordon ombilical autour du cou. Et donc, j'ai été déclarée cliniquement morte pendant plusieurs minutes.
Ah oui?
On a réussi à me réanimer, mais évidemment, là, avec les séquelles, le manque d'oxygène a fait qu'il y a des parties de mon cerveau qui ne répondent plus, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la paralysie cérébrale, ce qui fait qu'il y a des parties de mon cerveau qui ne fonctionnent pas, qui font que j'ai des problèmes au niveau moteur, entre autres, et une quadriplégie qui font que je marche plus difficilement. J'ai moins de dextérité aussi.
Mais vous marchez, vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Vous ne vous déplacez pas en fauteuil roulant.
J'ai un fauteuil roulant quand c'est de longues distances, par exemple dans les universités, parce que je travaille dans les universités. Les universités sont quand même des gros bâtiments, donc j'utilise parfois un fauteuil roulant, mais j'essaie de marcher le plus possible parce que quand tu arrêtes de marcher, évidemment, les muscles s'atrophient, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de conserver. Donc, j'essaie de marcher le plus possible.
Et Élisanne, vous venez toujours à Canalem accompagnée de votre chien, le chien Norton, qui est d'ailleurs en studio,
oui,
qui est très beau, un beau chien noir. C'est un chien Mira?
Oui, c'est un chien de la Fondation Mira, effectivement.
Et quelle est la fonction de ce chien-là dans votre vie?
Norton est un chien d'assistance, donc pour la mobilité physique. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va justement tirer mon fauteuil roulant pour que je n'aille pas me propulser avec mes bras, étant donné que je suis quadriplégique, ça me prend énormément de force pour moi de me propulser. Donc, c'est le chien qui tire. Aussi, quand je marche, il me sert de canne. Donc, il se met à ma gauche et va aider au niveau de ma mobilité, va me relever si je tombe, va essayer de rattraper si je perds l'équilibre avant que je tombe, évidemment.
Ouais.
Et puis, il va aussi ramener des objets, ouvrir des portes, enlever les manteaux, ce genre de choses-là, pour être capable, par exemple, de m'emmener mon téléphone si je fais une chute. Ce genre de choses au quotidien, entre autres. Et évidemment, comme tous les chien, bien, il devient un support émotionnel, même si ce n'est pas sa fonction.
Ouais.
Mais forcément, là, c'est devenu mon meilleur ami avec le temps. Puis,
ah oui?
Ben oui, bien sûr.
Il est indispensable aussi.
Il est complètement indispensable.
Ouais.
Au niveau physique, bien sûr, mais on s'attache au niveau émotionnel aussi, évidemment. Donc,
est-ce que c'est votre premier chien?
C'est mon deuxième chien.
Votre deuxième chien.
J'avais eu un chien avant lui, puis avec la COVID, là, ça a pris quand même 2 ans avant que j'aie un chien. Donc, j'étais 2 ans sans chien, et c'est là où tu te rends compte qu'un chien est vraiment indispensable à ma vie. Après la mort de mon premier chien, j'avais dit qu'on aurait pu, mais finalement...
Parce que c'était trop souffrant.
C'était très, très souffrant. Mon chien est mort de façon très subie, donc c'était pas du tout agréable. Mais finalement, j'en ai bien besoin, autant physiquement que mentalement. Là, j'ai besoin d'un chien dans ma vie.
Et ça fait combien de temps que vous l'avez dans votre vie?
Norton, je l'ai eu donc en 2021. Ça fait 3 ans là, que okay. je l'ai.
C'est vous qui l'avez baptisé Norton?
Non, il est chien Mira. Quand on arrive chez Mira, donc ils sont complètement dressés, prêts à nous recevoir et ils ont leur nom.
Alors, si on parlait de votre famille tantôt en dehors des ondes, on parlait de votre grand-mère qui s'appelle Jeannette et qui a 100 ans.
Oui.
C'est pas Jeannette Bertrand, par exemple. Jeannette Bertrand va avoir 100 ans en mars 2025.
Jeannette Pellerin qui a eu, effectivement, 100 ans au mois de juillet, Dagny, ma grand-mère qui va sans doute nous écouter. Donc, effectivement, c'est une grande partie de ma famille. J'aime beaucoup ma grand-mère, mais j'ai aussi une famille qui est quand même très soutenante, qui m'a beaucoup aidée, évidemment.
Des frères, des sœurs?
Oui, j'ai 2 frères plus vieux. Je suis le bébé. Ouais. Donc, on m'a montré à me battre là, quand j'étais jeune et à me défendre.
De toutes les façons?
Oui, voilà, de toutes les façons. Je savais me défendre et puis, voilà, j'ai été élevée un peu à être dure avec les garçons, mais c'est toujours utile, je trouve.
Oui, la relation est bonne, l'entente est bonne.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr qu'avec la famille, tout le monde travaille beaucoup. On ne se voit pas autant qu'on voudrait, mais effectivement, la relation est bonne.
Et puis, votre mère est une grande alliée. Hein. C'est elle qui s'est battue pour qu'on vous accepte dans une classe régulière à l'école. Et comment vous pensez, Élisane, si ça ne s'était pas passé, là, quel aurait été votre cheminement si on vous avait laissé dans une école spécialisée?
Ça aurait été extrêmement difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les écoles spécialisées, malgré qu'elles sont tout à fait nécessaires là, pour des enfants qui ont des besoins particuliers importants, ne donnent pas de diplôme d'études secondaires à la fin du parcours parce qu'on n'a pas les mêmes acquis. Donc, j'aurais pas un diplôme d'études secondaires, donc j'aurais pas pu aller
pas de reconnaissance
au cégep et à l'université. Oui. Et malheureusement, pour quelqu'un comme moi, sans aller à l'université, sans pouvoir aller au cégep, les capacités et les probabilités d'emploi est quand même faible hein, parce que forcément, comme caissière, ce serait difficile au niveau de ma mobilité. Donc, ça passait pour moi par l'université. J'aurais pas pu avoir un emploi, j'aurais probablement, c'est ce qui arrive malheureusement, les taux de personnes qui sont sans emploi avec des handicaps sont extrêmement élevés. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de compétences, mais c'est parce qu'on n'a pas développé ces compétences-là. Mm-hmm. Et ça prend souvent quelqu'un comme ma mère qui, ma foi, se bat et à chaque année reçoit une lettre comme quoi je suis exclue de l'école et retourne à la commission scolaire, se battre. Elle a dû faire du camping sur le site de la commission scolaire à l'époque.
Jusqu'à ce point-là.
Jusqu'à ce point-là. Puis après, bon, c'est moi, en vieillissant, qui a appris à me défendre.
À devenir militante.
Oui, comme ma mère m'a aussi bien montré. Donc, effectivement, je dois tout à ma mère parce que sinon, j'aurais probablement été sur l'aide de dernier recours. Mm-hmm. Et puis, non seulement, évidemment, c'est pas facile financièrement d'être sur l'aide de dernier recours, mais mentalement, évidemment, là, on se prive de beaucoup d'opportunités pour la société, pour la personne aussi qui est prise à la maison, a peu de contacts sociaux et tout ça. Donc, psychologiquement, c'est difficile. Donc, Dieu merci, je me suis pas rendue là. J'ai un emploi que j'aime. J'adore enseigner à l'université.
Mais avant d'aller à l'université, vous avez aussi fait le secondaire. C'est au secondaire là, que vous vous êtes impliquée dans l'aide communautaire. C'est comme ça qu'on dit ça?
En fait, effectivement, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'allais plus vite que les autres à l'école, là. Même si on disait là, à chaque année qu'il fallait qu'on me sorte parce que j'avais pas les capacités d'être dans une école normale, j'allais quand même beaucoup plus vite que les autres. Et vous savez, dans un groupe, il y a toujours un peu de retard parce qu'il y a toujours des gens en arrière qui font un peu de rigolo. Voilà.
Ouais.
Et donc, moi...
Des cancres.
Oui, voilà. Je faisais mon travail très, très vite et je ressortais pour aller faire de l'aide communautaire, des projets. Donc, c'est ce qui me tenait à l'école parce qu'au niveau académique, j'avais l'impression de perdre mon temps.
Ah ouais.
Donc, j'ai eu un taux d'absentéisme au niveau de la classe très, très, très élevé parce que j'étais, grosso modo, presque jamais à classe. J'étais toujours en train de faire des projets. Et c'est ce qui,
vous avez pu rencontrer des amis.
Oui, tous mes amis étaient là. Forcément, quand on a une situation, l'handicap, bien que tout le monde me respectait parce que j'avais 2 frères plus vieux... c'est très difficile de se faire des amis. Les gens, me respectaient, mais t'as pas porté à venir vers moi. Donc, c'est vraiment moi ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir une petite équipe avec qui je faisais beaucoup, beaucoup d'aide communautaire, qui m'aimait, qui me respectait, puis avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, parce que ça a changé ma vie de faire ça et ça m'a beaucoup appris sur la justice sociale, sur les besoins sociaux. Et c'est tout à fait pour ça que je suis partie en politique quand je suis allée à l'université. Là.
Oui, et je me rends compte que mon naturel radio est revenu au galop, c'est-à-dire que je vous vois.
Alors, je continue. Peu importe.
Élisane, donc, vous avez parlé de vos études universitaires. Vous avez choisi les sciences politiques. Pourquoi les sciences politiques?
Parce que j'ai décidé de ne pas aller en droit. J'avais été acceptée en droit, puis finalement, j'avais peur de devoir défendre des causes qui n'étaient pas chères à mon cœur, auxquelles je ne croyais pas. Je voulais faire du droit criminel, mais je ne voulais pas avoir à défendre des criminels. Donc, à un moment, j'ai compris que ça n'allait peut-être pas ensemble. Et mon deuxième choix sur la feuille était sciences politiques, parce qu'on peut mettre deux choix pour le même prix. Donc, j'avais mis un deuxième choix. Donc, je suis allée en sciences politiques un peu comme ça, sans trop savoir où je m'en allais. Et j'ai compris au travers des semaines qu'on pouvait devenir professeur de sciences politiques et donc que je pouvais faire une carrière comme professeur. Et c'est ce que j'ai choisi. Donc, je suis allée jusqu'au doctorat et je suis devenue... maintenant, je suis chargée de cours. Je n'ai toujours pas de poste de professeur, mais ça viendra, j'espère. Mm-hmm. Puis, j'enseigne les sciences politiques. J'essaie de faire un changement dans la société pour que justice soit faite pour tout le monde et que tout le monde puisse y trouver sa place.
Qu'est-ce que vous aimez dans l'enseignement?
J'adore le fait... Bon, premièrement, on m'a toujours dit que je parlais trop. Et que je parlais trop fort. Donc, ça, c'est ma revanche. On me paye pour parler tout seul. J'adore ça. Ensuite.
On vous écoute, j'espère.
Ben, je sais pas. Ça dépend. Il y a toujours ceux en avant qui écoutent et ceux en arrière qui n'écoutent pas. Mais ça me dérange pas. C'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs l'université. En fait, hein, j'ai pas de compte à rendre à personne. Et s'ils m'écoutent pas, ce sont des adultes. Donc, c'est pas mon problème. Donc, j'ai eu
espoir. C'est eux qui sont perdants au bout
du
compte.
J'ai eu espoir et ceux en avant qui m'écoutent, je refais des blagues. Ceux en arrière, ben, ils manquent mes meilleures blagues. Et j'aime le fait d'être capable de transmettre quelque chose. Et j'adore les échanges qu'on fait. On est, grosso modo, payé pour parler, pour avoir des échanges, pour être capable de transmettre des connaissances qui nous sont chères. Donc, moi, c'est quelque chose que je crois en cette valeur-là qui est de l'enseignement. Mais j'aurais pas pu le faire avec des enfants parce que j'aurais pas pu faire de la discipline là, toute la journée. C'était pas pour moi du tout.
C'est beaucoup d'énergie.
C'est énormément d'énergie que je n'ai pas. Je suis pas une excellente pédagogue. Donc, avec les adultes, j'arrive à ne pas avoir à faire de pédagogie.
Et quel est le titre du cours que vous donnez?
J'en donne plusieurs. Entre autres, je donne des cours de politique internationale, je donne des cours de politique au Québec, au Canada, ça dépend vraiment d'une session à l'autre. Les cours qu'on a besoin, pour lesquels on a besoin de moi. Là.
Et vous parlez d'humour, c'est souvent votre arme, une soupape d'une certaine façon. Expliquez-nous.
Je pense que la plupart des personnes en situation de handicap ont développé ce moyen de défense-là, de rendre tout en humour, en fait, parce que, veut pas, il nous arrive des choses qui sont totalement tragiques.
Comme quoi, par exemple?
Ben, comme se faire refuser un hôtel. Parce qu'on a pensé qu'il était en situation d'handicap.
Que j'étais intoxiqué,
j'étais saoul. Donc, à cause de ma démarche. Donc,
on a sauté aux conclusions très rapidement.
On m'a refusé d'entrer. Il y a des gens, évidemment, qui c'est pas méchant, c'est pas pour mal faire, mais qui passent des commentaires à l'épicerie.
Comme si vous n'entendiez pas.
Oui, ou des fois, non, viennent me parler aussi. C'est dommage hein, que tu sois en situation de handicap parce que tu es belle. Tu sais. Malheureusement, tu vas finir tout seul, mais tu aurais pu trouver quelqu'un. À 8h15 le matin.
Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de commentaires?
Généralement, j'essaie de ne pas être méchante parce que ces gens-là ne sont pas méchants, ils ne veulent pas mal faire. Mais j'essaie aussi d'éduquer, à tout le moins quand j'ai l'énergie de le faire. Là. Des fois, on n'a juste pas l'énergie de le faire. On fait un sourire puis on fait bonne journée. On s'en va. Ouais. Ça dépend à l'heure qu'il est le matin.
Comment
ça
vous
dépend,
vous sentez?
Ouais, ça dépend de ce qui s'est passé. Donc, effectivement, on réussit à virer à dérision ce type de
commentaires-là.
De propos-là, oui. Ouais. parce qu'il faut en rire, sinon on en pleurait. Donc moi, entre autres, tu sais, j'ai une page Facebook avec le titre de l'émission où j'écris ce genre de choses-là. Je suis en train d'écrire des livres aussi. Puis bon, j'ai ma mère qui est mon meilleur public, donc j'appelle ma mère pleure de rire de l'autre côté du téléphone. Et je me dis, bon, au moins, ça aurait servi à faire rire ma mère. Et on passe à autre chose parce qu'il faut pas trop s'attacher à ça. Mais effectivement, si on n'avait pas d'humour et d'autodérision, la vie serait particulièrement difficile.
Ça serait difficile. Donc, oui. Ça vous demande une certaine... beaucoup de confiance en vous, une estime de soi très, très développée, parce que recevoir ce genre de commentaires-là, on a beau avoir le sens de l'humour, ça doit, par moments, être difficile à recevoir.
Oui, c'est extrêmement difficile.
Parce que vous n'êtes pas faite en fer, là.
C'est ce que je disais au début de l'entrevue. En fait, c'est ce qui a changé pour moi au fil des années. Plus je suis devenue adulte, plus ces commentaires-là m'affectent, sincèrement.
Ah oui?
Parce que je me rends compte que la discrimination est réelle. Puis je me rends compte, je pensais à l'époque où j'étais jeune et naïve que parce que j'aurais des diplômes, que j'aurais des compétences, ça allait passer outre ma situation handicap. Et on se rend compte que c'est pas le cas. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui vient nous chercher. Je vous mentirais de dire que je trouve ça toujours drôle, là. Pas du tout, mais parce que j'arrive à le changer en humour, j'essaie que ça m'affecte le moins possible. Mm-hmm. Mais clairement, ça affecte notre estime. On peut pas dire le contraire. C'est sûr que ça devient difficile parce qu'on en a tous les jours. Donc, il y a des journées où tu te sens déjà pas bien, qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie personnelle et tu reçois ça. Et c'est toujours la journée où tu en as 3 ou 4 de ligne. Hein.
Ouais.
Et c'est extrêmement difficile sur la confiance, mais on fait avec, on n'a pas le choix. Donc, on essaie de trouver des mécanismes de défense pour être capable de s'en sortir et de tirer le mieux de tout ça. Là.
Mais Élisane Pellerin, est-ce que vous sentez une sorte d'évolution des mentalités?
Oui, il y a une certaine évolution des mentalités qui se fait en ce moment. Je pense qu'on, malheureusement, on est encore loin de où on devrait être au niveau de l'acceptation des personnes en situation d'handicap.
Pourquoi vous pensez?
Parce que c'est dur de changer les choses. Les mentalités, c'est quelque chose qui est difficile à changer. Donc, les gens vont nous accepter dans le public, évidemment, vont nous accepter maintenant dans les universités.
Quand on est enfant, là, aussi, tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Oui.
On veut se faire des amis, point.
Oui, et puis en vieillissant, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, les gens nous acceptent, mais après, il faut arrêter de voir l'handicap, arrêter d'avoir pitié de nous.
Et ça,
on n'est pas rendu là, c'est pas ce qu'on veut, mais le nombre de fois où je me fais dire hey, « Toi, ta vie, ça doit être tellement difficile, je voudrais pas être pris comme toi. » Puis tu fais « Ben, ma vie, t'es pas si pire que ça avant que vous passiez les commentaires. »
Puis la tienne est comment?
Oui, voilà.
Ben, tu veux pas non plus...
J'ai déjà répliqué « Monsieur, je fais probablement 3 fois votre salaire. J'ai une vie qui est tout à fait remplie. J'ai des amis, j'ai des relations amoureuses. Ça va très bien de mon côté.
Ouais.
Merci. Et vous? » Et là, ça l'a pris. Donc, mais comme je vous dis, j'essaie d'éviter...
De ne pas être arrogant.
D'éviter de faire ça, mais... Ça, il est déjà fait
une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps, ça fait du bien.
Mais par où ça passe?
À un moment, il faut arrêter de prendre les gens à pitié. Il faut arrêter
De leur dire aussi que t'es courageuse.
Oui, d'avoir
t'es courageuse,
le préjugé. D'avoir
être condescendant.
D'avoir le préjugé que ces gens-là sont sur le bien-être social, qu'ils n'ont pas d'amis, qu'ils n'ont pas de relations amoureuses et que leur vie est très difficile. Ça peut arriver qu'elle est difficile. Effectivement, on a plus de défis que les autres, mais il faut arrêter de voir les différences justement pour que ces défis-là cessent. Mm-hmm. Il faut changer notre mentalité. Et ça, c'est quelque chose qui reste à faire. On fait des pas par en avant, mais on a encore une bonne route. Quand même.
Est-ce que ça a été difficile de trouver justement un emploi de chargé de cours? Est-ce que vous avez senti des portes fermées?
Oui, clairement, c'est difficile. Puis encore, comme je vous le disais, je n'ai pas de poste de professeur. Puis c'est extrêmement difficile.
À cause de votre handicap, vous pensez?
Entre autres. Il y a plusieurs
choses. On
vous
l'a dit clairement?
Non, on le dit jamais clairement, évidemment, on le dit jamais clairement. Il y a plusieurs choses, je suis jeune aussi, donc forcément, ça joue aussi, mais il y a plusieurs emplois où je savais clairement que j'avais le meilleur CV, puis que la personne à côté de moi, je connaissais son CV, et je savais que j'aurais dû passer à sa place. Mais on peut rien faire, forcément. Le problème au Québec, entre autres, c'est qu'effectivement, les organisations ont des chartes où ils doivent prioriser les personnes en situation de handicap à compétences égales. Mais dans les faits, il y a rien qui garantit ça. Tu peux, quand on passe en entrevue, des fois je le vois dans leur visage là, que ça passera pas. Là.
Ah ouais.
Ils sont très cordiaux, mais tout d'un coup, ben il va avoir un CV qui va sortir de nulle part, qui va être meilleur que moi. Ils n'ont pas à se justifier forcément, et donc c'est quelque chose qui porte préjudice parce que dans les faits, il n'y a pas moyen de prouver qu'on a été discriminé. Même mm-hmm. si des fois, ils ne le diront pas dans ces mots-là, mais ça paraît dans leur façon, dans les commentaires qu'ils vont passer, dans la façon de nous regarder. Des fois, on connaît les candidats à côté de nous aussi. Donc, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile au niveau de l'emploi. C'est pour ça qu'à la plupart des personnes en situation de handicap n'ont pas d'emploi. C'est encore une grande, grande, grande barrière à franchir et ça mène à des situations de pauvreté et d'isolement et de problèmes psychologiques importants. Là.
Est-ce que vous trouvez qu'une journée comme aujourd'hui, la journée internationale des personnes handicapées est importante à souligner?
C'était...
En sa raison d'être?
Ça, ça a raison d'être, évidemment, mais après, ce que je déplore de ce type de journée-là, c'est qu'on les prend, on prend quelques photos, on souligne, mais au bout du compte, est-ce qu'on fait des choses concrètes pour améliorer les choses? Pas vraiment. Donc, il faudrait prendre ces journées-là et les utiliser comme étant des leviers pour mettre en place des mesures, des politiques qui vont réellement aider les personnes en situation de handicap. Et là, je parle des personnes en situation de handicap, mais plus largement, les personnes discriminées. Et ça, ben, ça reste encore à faire. Souvent, ça sert de parure pour bien paraître. Et dans les faits, au niveau des actions concrètes, ça manque.
En tout cas, on est bien content de vous avoir comme collègue, Élisane Pellerin. Et comment s'est arrivée votre aventure à Canalem?
C'est, on m'a appelé en fait pour m'offrir un poste de chroniqueuse pour une émission d'été avec Chantal Lavoie,
oui.
parce qu'il manquait quelqu'un, il n'y avait personne. Et on avait vu là, mon documentaire sur Radio-Canada, donc on m'a appelé. Et comme je ne savais pas trop quoi faire de ma peau à ce moment-là, je me suis dit « pourquoi pas ». Et finalement, ben, je suis restée. Parce
vous
que
le regretterez, vous le regrettez pas?
Non, je regrette pas, j'aime bien l'équipe. Puis je me découvre des talents d'animatrice.
Ah oui, et puis on peut découvrir vos talents justement à travers votre chronique Revue de presse à Sans détour. Ça se passe les lundis à
oui.
compter de midi. Et vous êtes en onde vers quoi, 13h?
Je suis en onde à midi 45.
Midi 45.
Oui.
Et puis vous êtes aussi l'animatrice du balado. Puis toi, ta journée, vous rencontrez toutes sortes de personnes
oui.
vraiment inspirantes.
Toutes sortes de personnes discriminées par société très largement, donc
ouais.
ça, c'est mon côté.
Des gens fait fort.
Oui, des gens fait fort et on a de très belles conversations. Ça dure quand même une heure, donc on a le temps d'aller en profondeur. Et j'ai découvert beaucoup de gens et beaucoup de force dans ces gens-là. Donc, c'est à écouter, c'est sur Internet, entre autres, sur le site de Canalem. Effectivement, ça donne de très, très très beaux épisodes que je suis très contente d'avoir mis en ligne.
Élisane Pellerin, un grand merci d'être
merci
passée
beaucoup.
Dans nos studios. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Je salue le chien Norton.
Il vous salue aussi.
Il était super tranquille. Hein?
Il est toujours très tranquille. Il se repose.
Il se repose. Ça nous calme, sa présence.
Oui,
bien
voilà,
vraiment,
c'est pourquoi je
bien.
Disais que psychologiquement, j'en ai tant besoin. Il me calme.
Merci, Élisane.
Merci.
À la prochaine.